Bon, comme d'habitude, les questions crépitent plus on s'approche de la fin. Je vais passer au plan B. C'est-à-dire, je vais faire poser deux questions auxquelles les gens répondront, parce que pour gérer l'impatience des personnes qui voulaient intervenir.
Alors bonsoir messieurs, je suis professeur d'histoire-géographie. J'ai été très intéressé par vos différentes interventions et en particulier j'ai eu plein de souvenirs des débats sur la pédagogie en général dans ce que vous avez dit et puis où vous avez pris parti en fait de manière très très nette en faveur de monsieur Philippe Mérieux qui est haï par un certain nombre de victimes de l'IUFM pour avoir cherché à imposer sa vision donc de l'enseignement qui consistait à dire que on devait partir des objets et construire ensuite des notions. Donc ben, ça, c'est un débat qui n'est peut-être pas celui de ce soir. Alors, en tant que professeur d'histoire-géographie, on parle un peu d'économie quand même, pas beaucoup, mais on en parle. Et si on lit les manuels scolaires, on va trouver, en tout cas en histoire, un certain nombre de choses qui pourraient justifier les accusations qui ont été portées de haine de l'entreprise, etc. Alors peut-être pas directement, mais vous avez par exemple dans les nouveaux manuels de 6e, on vous cite un texte où on vous dit que le potier est plus sale qu'un porc. Alors c'est un texte critique, ironique, etc., mais qui n'est pas présenté comme tel. Et puis, alors, si on passe à des manuels de terminale publiés en 2007, si je me souviens bien, on a des phrases comme les problèmes du monde sont liés à un système économique libéral dont les inconvénients sont plus visibles que les avantages. Alors ça, c'est dans le cours. Et puis, peut-être de manière plus profonde, si on regarde le cours sur la révolution industrielle en première, donc qui sera sans doute dans le nouveau programme de première qui est en cours de réalisation, en fait, on n'a pas d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on parle de notions. Mais on ne va pas parler de ce qui va faire que, par exemple, tel personnage va fonder une entreprise, comment il va la faire réussir. Et alors ça, c'est des choses dont on avait entendu parler à l'université quand on préparait l'agrégation sur industrialisation et société. Et alors je voulais vous demander, est-ce que dans les manuels de sciences économiques et sociales, on peut retrouver le même genre de choses qui sont orientées non pas dans le discours, non pas dans la forme, mais dans le choix des exemples. Et en particulier, je crois me souvenir qu'on a beaucoup reproché le choix des caricaturistes qu'on trouve dans beaucoup de manuels.
Je vais peut-être faire répondre à cette question.
Nous, ça fait partie des critiques récurrentes qu'on a. Donc, on a Michel Pébrot, par exemple, qui se répand dans la presse. C'est toujours intéressant parce qu'il cite toujours les deux mêmes pages d'un manuel, je ne cite pas l'édition, de la même année, un manuel de première, c'est toujours les deux mêmes pages. J'étais au Journal de l'économie avec lui au même bureau comme ça, donc j'avais anticipé les choses. Donc, quand il a sorti son manuel, j'ai sorti le même. Voilà, ça faisait un effet tout de suite et j'étais à la même page que lui. Et vous pouvez trouver d'ailleurs cette citation, je crois que dans le challenge de cette semaine, il y a un article encore là-dessus où il est cité, et il reparle encore de ces deux mêmes pages avec le fameux marché aux esclaves, etc. Bon, il y a 7 collections de manuels de SES, hein, par niveau, donc 7 en première, 7 en terminale. Voilà, on peut toujours trouver une fixation sur telle ou telle page. Je signale que sur la page qu'il attaque, il y a aussi une citation de Milton Friedman.
En fait, les professeurs reçoivent, quand il y a un nouveau programme, ils reçoivent les échantillons des principaux éditeurs. Et en fait, effectivement, on peut dire que les manuels sont ultra-libéraux parce qu'il y a des citations de Milton Friedman. Peut-être que si on réfléchit en regardant sur une question tous les échantillons de manuels, on s'aperçoit qu'il y a quand même effectivement une orientation.
Je voudrais juste un point. Le rapport de la commission que j'ai présidée, commission d'audit, hein, sur les programmes et les manuels, a fait un travail sérieux sur ce sujet, c'est-à-dire que je crois que chacun des membres de la commission, on était quand même une dizaine, a lu entièrement deux manuels. Les lectures ont été confrontées et qu'il y a à la fin de notre rapport 4-5 pages qui font la synthèse sur nos conclusions en ce qui concerne les manuels. Donc je pense que vous pouvez vous y reporter. Elles vont dans des sens différents, mais elles ne sont pas aussi catastrophiques que ce que vous suggérez.
Je les ai là. En très très bref, de ce constat, je lis les grands titres, hein. Les manuels sont tous conformes au programme, ce que dit c'est Jean-Michel Charpin qui avait fait l'annexe. En matière de super pédagogique, le pire et le meilleur se côtoient, donc il y a peut-être des choix. Bon ben oui, les manuels ne sont pas parfaits, et je ne pense pas que les auteurs le revendiquent forcément. Et moins que l'entreprise, c'est surtout le marché, dont le traitement est insuffisant en quantité. En revanche, le thème de l'entreprise fait l'objet de beaucoup moins de critiques. Voilà. C'était le rapport.
C'est basé sur un travail sérieux. Hein.
Donc madame.
Alors je parle des sciences de l'éducation à Paris 8 et je suis un peu abasourdie. J'ai l'impression ce soir de me trouver sur une île en dehors de l'Europe. J'ai l'impression que dans les discussions, il n'y a pas eu la conscience qu'on est passé depuis plusieurs années vers une démarche par les compétences, donc centrée sur les élèves et non pas sur les savoirs. Les savoirs, bien sûr, ont leur valeur et ont leur fonction dans cette approche-là, mais ne sont pas sacralisés comme ça me semble le cas dans la plupart des discussions autour des disciplines que j'entends en France.
Ce que vous voulez dire, c'est dans d'autres pays, on est plus tourné vers les élèves que vers les connaissances.
C'est-à-dire aussi bien l'approche portée par l'OCDE que par l'Union européenne, elle est portée maintenant par une démarche, une logique compétence et non pas par une logique savoir. Une
compétence de qui ? Des élèves ?
Des élèves, oui. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme learning outcomes dans la démarche pédagogique ?
Je crois que c'est une très bonne remarque, parce que c'est vrai que cette notion, alors il y a des débats infinis sur comment définir les compétences, il me semble quand même qu'on peut trancher en disant qu'il ne faut absolument pas opposer les savoirs aux compétences, ça fait partie des choses importantes, mais qu'en gros les compétences, si on veut le définir rapidement, c'est des savoirs en acte. Autrement dit, il faut savoir utiliser les savoirs, etc., etc. Et là, c'est vrai que dans les programmes qui sortent en sciences économiques et sociales, contrairement à d'autres disciplines d'ailleurs, et en particulier les sciences expérimentales, on pourrait y revenir, ben, on a un empilement de notions, une centration vraiment sur les notions au détriment de leur mise en œuvre, et ce qui permet la formation de l'esprit scientifique, il me semble, dans ces domaines-là, c'est leur mise en œuvre sur des questionnements qui donnent du sens, et puis aussi cet aller-retour entre la théorie et l'empirie, qui fait la spécificité d'une discipline scientifique.
Ouais. Quand même, rapidement, moi, j'aime pas beaucoup la notion de compétence, hein, vous avez de raison, mais il me semble que j'ai justement insisté sur la critique de cette conception très abstraite du savoir, en insistant sur deux autres dimensions. La première, qui est effectivement une logique d'apprentissage, parce qu'il me paraît essentiel, c'est d'apprendre à apprendre, c'est pas les contenus en tant que tels, c'est d'être capable, je dirais, dans un processus long, d'absorber des contenus divers. Et la seconde chose, qui me semble ne pas devoir être oubliée, c'est la notion de culture, ce qui est un peu différente de celle de savoir. Et c'est là-dessus que j'insistais tout à l'heure, c'est-à-dire des points d'appui qui peuvent être des points d'appui communs, même si, c'est ça que je voulais dire, même si parfois ces points d'appui ont un caractère un petit peu mythique.
Bon, on va prendre les deux dernières questions, donc madame et madame.
Donc je me présente, je suis doctorante en école de commerce, en contrôle de gestion, donc ma question va être peut-être un peu influencée par mon métier. C'est que, en fait, je me demande toujours l'évaluation et je me demandais si ce qui se joue là, c'est pas dans la définition des programmes, c'est pas le modèle d'évaluation d'une certaine conception de ce qui est un élève intelligent. Et je me posais cette question parce que devant donner des cours en école de commerce, on est un petit peu face à des élèves aujourd'hui qui courent derrière les doubles, triples diplômes. Et du coup, on a de plus en plus de mal, par exemple, dans les cours d'enseignement de management de la performance, de les sortir de cette scolarité d'apprentissage et de leur faire prendre du recul. Donc c'était une question simplement, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Voilà.
Alors on va prendre la deuxième question.
Bonjour, donc je suis enseignante de sciences économiques et sociales en Seine-Saint-Denis. Je voudrais juste parler des manuels et des programmes. Je rappelle qu'entre un manuel et des élèves, il y a un enseignant. Entre des programmes et 36 élèves, il y a un enseignant. Et qu'on oublie souvent les enseignants de sciences économiques et sociales et ce qu'ils apportent. Et je voudrais revenir sur le programme de première. Donc, comme ça a déjà été dit, il est très massivement rejeté par les enseignants qui sont très inquiets de sa mise en application. Tellement inquiet qu'il y a quand même 2000 enseignants sur, on a à peu près 5000 publics privés confondus, qui ont signé en 15 jours une pétition pour demander un moratoire, c'est-à-dire la non-application de ce programme, et la création d'un nouveau groupe d'experts pour en réécrire un nouveau. Donc, monsieur Ganry, je me permets de vous reposer la question, parce que vous avez dit que le programme avait été très vite conçu, peut-être trop vite. À un moment donné, vous avez dit aussi que ça pouvait être une caricature de ce qui se faisait à l'université. Donc, est-ce que, parce que je pense que c'est important que vous exprimiez, puisque par exemple, si je prends le préambule du programme de première, pour justifier ce programme, on cite votre rapport. Quand une sénatrice interpelle le ministère sur ce programme et sur le refus des enseignants de l'appliquer, on vous cite et on cite votre rapport, donc votre parole est importante. Donc je voudrais savoir si, est-ce que ce programme a été trop vite écrit et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit réécrit. Je vous remercie.
Voilà qui est direct.
Non, là, je vous ai dit ce que je pensais. Maintenant, moi, je ne me suis pas exprimé publiquement parce que c'est une série de raisons, parce qu'on ne me l'a pas demandé, parce que je pense que la balle n'est plus complètement dans mon camp. Mais je pense que c'est à tort que l'on sollicite les conclusions de notre rapport pour justifier ce programme. Je l'ai dit d'ailleurs au président de la commission, je l'ai dit aux gens dans le ministère. Je crois qu'à partir du moment où je l'ai dit, d'ailleurs, on a cessé de mobiliser notre rapport comme support. C'est peut-être revenu récemment, mais je ne savais pas.
Vous répondez pas maintenant.
question. Hein. Moi, si je ne réponds pas à une question d'un élève, il va insister. Alors, je vais me permettre d'insister, dire est-ce qu'il doit être réécrit ?
Doit, je pense que la prochaine fois qu'on fera un programme, là, on est passé d'un extrême à l'autre et qu'il faut viser quelque chose d'intermédiaire. Oui, c'est vrai.
Bon, il est temps de conclure. Éventuellement, vous avez un commentaire.
Donc, ça va être une conclusion très rapide et j'ai démarré un peu par ça parce qu'ici, on est dans un cénacle où on traite beaucoup d'analyse des organisations et moi, je crois qu'on est au cœur ici de plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'on a un enseignement dont on dresse un bilan positif, même si on peut peut-être regarder, enfin, tout est perfectible, évidemment, mais qu'on cherche à remettre en question de manière assez importante, et en plus sans s'en donner le temps, parce qu'à la limite, si on fait une remise en question profonde, pourquoi pas, si c'est justifié sur la base, de, justement, bah, pour ceux qui font de l'audit, on fait un audit, on regarde, mais non, on s'aperçoit que ça réussit plutôt bien, on remet en question en profondeur, sans s'en donner le temps en plus. Donc là, évidemment, on fait un programme qui, dans les faits, ne sera pas appliqué. Les enseignants vont le tordre, bah, parce qu'eux, ils ont en face d'eux des élèves, donc en septembre prochain, et ils vont devoir faire en sorte de prendre en compte l'intérêt de ces élèves-là pour les amener ensuite au baccalauréat en fin du cycle terminal, on ne sait même pas dans quelles conditions. Et donc, ils vont devoir faire avec ça, et on va se retrouver avec un écart sans précédent, je crois, entre la norme et les pratiques. Voilà.
Il y a un mot rapide. Moi, ce qui m'a frappé, finalement, dans ce débat, c'est que au final, autour de cette table, on était relativement d'accord, avec sûrement, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Et donc, l'écart qu'il pouvait y avoir entre cet accord qui se faisait entre des personnes très différentes, avec un passé très différent, un rapport à l'objet très différent, des orientations à certains égards très différentes, et puis, effectivement, ce qui est sorti de cette boîte de Pandore. Donc là, c'est vrai qu'on s'interroge un peu sur les modalités de concertation, de réflexion collective et la façon dont des objets aussi importants peuvent être produits dans notre République.
Ben, je crois qu'il a très bien dit les choses et quoi que vous pouvez l'applaudir, je me suis longuement exprimé. Je ne sais pas si on était aussi d'accord que vous l'avez dit, mais pourquoi pas, dans beaucoup de choses.
Il y a un point d'accord, c'est quand même faire un programme en un mois et demi sans tellement associer les profs, c'est quand même un peu fort de café.